Sunwa Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des produits que l'on côtoie tous les jours, des situations quotidiennes a priori inoffensives et un jour, traverser un champ, appliquer une pommade, croquer un fruit déclenche une réaction allergique. Une gêne, des crises d'éternuement, un picotement des yeux ou de la gorge, des plaques sur la peau et des démangeaisons. Ces allergies, on en parle de plus en plus. Allergies saisonnières, allergies aux médicaments ou de contact, elles concernent une part de plus importante de la population. Alors, au cours de cette émission, nous allons essayer de comprendre pourquoi leur fréquence est en augmentation et nous essaierons de savoir si l'on peut évaluer l'impact qu'a notre environnement sur ce dérèglement du système immunitaire, le mode de vie, l'alimentation, la pollution. Nous parlerons dépistage, diagnostic et prise en charge avec au-delà des traitements qui peuvent efficacement calmer ou bloquer la réaction, eh bien nous verrons comment dans certains cas il est possible d'agir sur certaines habitudes et limiter certaines expositions. Si vous êtes concerné par une allergie ou si quelqu'un l'est dans votre entourage, si vous avez une question à poser à nos invités, appelez-nous 33 84 22 75 75, laissez-nous un message sur la page Facebook de l'émission. Allergie respiratoire, allergie cutanée. En studio avec nous, docteur Patrick Ruffin, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Vous êtes pneumologue et allergologue à Paris. Au cours de cette émission, on va retrouver en direct du Sénégal le professeur Suzanne Niang. Elle est dermatologue, allergologue, chef du service de dermatologie vénérologie à l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar. Et en fin d'émission, nous parlerons de l'hypertension artérielle pulmonaire à l'occasion de la sortie d'un film documentaire consacré à cette maladie rare. Nous serons en ligne tout à l'heure avec le professeur Olivier Sidbon, pneumologue au centre de référence HTAP à l'hôpital Bicêtre du Kremlin-Bicêtre à côté de Paris.
Priorité santé sur RFI.
Et les allergies sont classées au quatrième rang des maladies chroniques par l'Organisation mondiale de la santé. Allergies plus fréquentes, une proportion de plus en plus importante de la population concernée. Docteur Patrick Ruffin, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors l'augmentation des allergies au cours de ces 50 dernières années est sans aucun doute liée aux modifications du mode de vie. Que ce soit dans les pays occidentaux, dans les pays émergents, partout dans le monde, l'augmentation des allergies est très nette. Plusieurs mécanismes. Il y a déjà les modifications de l'air que l'on respire. La pollution s'est modifiée, elle est différente d'avant. Nous aussi, nos habitudes alimentaires ont considérablement changé. Les process alimentaires dans les aliments que l'on trouve sous forme de conserve ou déjà préparés. Donc, tous ces éléments, pollution, réchauffement climatique également, qui modifie la pollinisation des plantes, tous ces éléments se conjuguent pour induire des manifestations allergiques.
Ça veut dire que notre organisme n'aime pas le changement. Est-ce que ça veut dire que toutes les allergies se déclenchent selon un même processus ?
Non, il y a des mécanismes tout de même différents. D'abord, il faut savoir que l'allergie existait déjà dans l'Antiquité. Il y a un pharaon qui est mort d'une piqûre de guêpe. Il est allergique aux hyménoptères déjà. Donc ça existe depuis toujours. Mais notre mode de vie moderne fait qu'on devient de plus en plus allergique. Les mécanismes. L'allergie en soi, c'est une réaction immunitaire. C'est-à-dire que pendant un certain temps, notre organisme se sensibilise, on n'a pas de symptômes, et arrivé à un certain niveau de sensibilisation, on déclenche des symptômes.
Alors des fois on dit c'est pas très grave, c'est juste un petit rhume des foins, mais certaines de ces rhinites sont loin d'être anodines parce qu'elles ont un potentiel d'évolution. On pense bien sûr au risque de cette maladie chronique très fréquente, docteur Patrick Ruffin. Cette maladie c'est bien sûr l'asthme.
Absolument. Il faut savoir que d'une part la rhinite a un impact important sur la qualité de vie, que ce soit au niveau du travail, que les relations avec les personnes. Et deuxièmement, une rhinite allergique peut se transformer en asthme. Les allergènes que l'on respire ne s'arrêtent pas au niveau des voies aériennes supérieures. En fait, au niveau du cou, il n'y a pas une porte fermée à double tour. Ça pénètre dans les bronches et au bout d'un certain temps, ça peut donner de l'asthme. Et lorsque l'asthme Même s'il s'agit au départ d'un asthme saisonnier, par exemple chez un patient qui est allergique à des pollens, eh bien cet asthme peut persister en dehors de la saison pollinique. Et donc, du nez qui coule, on va, elle m'a dit, à la bronche qui siffle.
Alors, vous avez parlé des pollens. Est-ce qu'on peut définir justement ces grandes classes d'agents allergènes, docteur Patrick Ruffin ? À quoi on peut être particulièrement sensible ? Il s'agit de quoi ? Il y a les pollens, des produits chimiques, quoi d'autre ?
Alors, il y a les... On classe les allergènes par voie respiratoire, ce qu'on appelle les pneumallergènes. Les pneumallergènes, c'est aussi bien les pollens, les acariens, les squames d'animaux, etc., les moisissures, etc. Il y a d'autre part les trophallergènes, c'est-à-dire les allergènes qui interviennent par voie alimentaire, c'est-à-dire les aliments. Et là, on peut être allergique malheureusement à très grand nombre d'aliments. Par exemple, on sait que beaucoup de personnes qui sont allergiques au pollen d'arbre sont également allergiques à la pomme crue. La pomme, c'est un fruit qu'on mange un peu partout dans le monde. Eh bien, on peut devenir allergique à ça. Donc, et ensuite, il y a les process alimentaires qui font, par exemple, que nous, dans les pays occidentaux, on mange beaucoup d'arachide qui est grillé à sec. Et cette arachide grillée à sec est beaucoup plus allergisante que l'arachide qu'on mange en Afrique ou qui est souvent bouillie.
Et en quoi consistent les tests réalisés justement pour savoir ce à quoi précisément on est allergique, docteur Ruffin ?
Alors, pour faire le diagnostic, d'abord il y a un interrogatoire précis qui oriente. Ensuite, on va faire des tests cutanés sous différentes formes, soit des prick tests le plus souvent, soit parfois pour rechercher des allergies de contact, on va faire des patch tests. On peut faire également des intradermo-réactions et on complète ces tests cutanés par des dosages d'IgE spécifiques qui sont des anticorps qui interviennent dans les réactions allergiques.
Alors on a bien compris, hein, différents types d'allergies, différentes réactions dans l'organisme. Avec vous, docteur Patrick Ruffin, on va parler de tout ce qui est allergie respiratoire. Et puis, pour parler des atteintes dermatologiques, on vous retrouve, professeur Suzanne Niang, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du service de dermatologie vénérologie à l'hôpital Aristide-le-Dantec à Dakar. Vous êtes bien sûr allergologue. On a parlé justement de ces allergies respiratoires, hein, allergies de plus en plus fréquentes avec le docteur Patrick Ruffin qui est à mes côtés en studio. Est-ce que c'est la même chose pour les atteintes cutanées ? Est-ce que vous observez une hausse des cas en consultation ?
Oui, c'est effectivement le même profil évolutif, hein, puisqu'on peut estimer l'eczéma, qui est la principale manifestation de l'allergie cutanée, comme étant l'un des premiers motifs de consultation dans notre service à l'hôpital. Et que donc, c'est une propension vraiment qui commence à inquiéter le milieu médical.
Et quand les personnes arrivent en disant « j'ai fait une réaction allergique à tel ou tel produit », comment est-ce que vous arrivez à déterminer l'origine de cette allergie, professeur Suzanne Niang en dermatologie, l'origine de cette allergie et ce qui pourrait bloquer la réaction allergique ?
Alors déjà, nous, on a bien identifié les grands facteurs déclenchants, je veux dire les problèmes de législation qui se pose dans notre pays et qui fait qu'il y a une flambée, notamment dans les allergies médicamenteuses. Donc on arrive déjà à déterminer dans le mode de vie du patient ce qui est à l'origine de son allergie. Mais aussi, de plus en plus, nous faisons des tests, des explorations allergologiques et des dermatologues sont de plus en plus formés justement pour pouvoir gérer l'identification de ces substances allergisantes qui sont à peu près les mêmes qu'on trouve en Europe, mais en plus chez nous, nous avons nos spécificités, notamment avec les plantes médicinales africaines ou les produits traditionnels cosmétiques que nous utilisons.
Et sur la place de Dakar, justement, les médecins capables de faire ce genre de diagnostic en allergologie, pas simplement en dermatologie, mais allergologie en général, ils sont nombreux ?
Oui, on est plus de 15 allergologues à Dakar. Mais le problème de cette spécialité, c'est qu'ils sont tous concentrés dans la capitale, ce qui fait qu'à l'intérieur, dans les autres régions du Sénégal, on ne dispose pas d'allergologues. Et c'est vrai que toutes les spécialités peuvent plus ou moins gérer ces pathologies allergiques, mais là où le bât blesse, c'est lorsqu'il faut identifier la substance allergisante, et malheureusement, il faut une formation en allergologie.
Alors on va tout de suite donner, si vous le voulez bien, la parole aux auditeurs et auditrices de Priorité Santé. Et vous allez donc leur répondre, docteur Patrick Ruffin ici en studio et vous, professeur Niang, en ligne de Dakar.
Priorité Santé sur RFI.
Première auditrice en ligne de Guinée, de Conakry précisément, c'est vous Fatoumata, bonjour.
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 On vous écoute, allez-y, posez votre question.
Au fait, moi, je suis allergique aux mauvaises odeurs.
Oui.
Aux odeurs chimiques.
Oui,
dès que je sens une odeur chimique, voilà, je suis automatiquement enrhumée.
Oui, alors en fait...
Vous avez quoi comme autre réaction? Excusez-moi juste Fatoumata, pour bien nous décrire la situation. Vous avez quoi comme autre réaction? Vous dites vous enrhumez. Est-ce qu'il y a d'autres réactions allergiques?
Oui. D'autres réactions, oui. Deux fois, j'ai juste très mal à la tête. Très, très mal à la tête.
Et vous avez consulté déjà pour cela ou pas?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le médecin, que vous avez pu voir?
Bon... Il m'a parlé juste d'allergie et à chaque fois, il me prescrivait des antihistaminiques.
Et ça vous a fait du bien de prendre ces médicaments?
Oui, quand je prends ces antihistaminiques, du coup, je peux respirer n'importe quelle odeur et sans problème.
Docteur Patrick Ruffin, qu'est-ce que vous pouvez dire à Fatoumata?
Alors, en fait, vous n'avez pas une véritable allergie. Il y a réaction immunitaire, et dans votre cas, on n'a pas de réaction immunitaire vis-à-vis des odeurs fortes qui sont liées en fait à des polluants chimiques. Comme, en fait, une odeur forte, même s'il s'agit d'un parfum, c'est un polluant. Un parfum, c'est un polluant agréable, mais c'est tout de même un polluant. Et vous avez une muqueuse nasale qui réagit de manière non spécifique à ces différents polluants chimiques. Et votre médecin a eu tout à fait raison de vous prescrire un antihistaminique, car les antihistaminiques, bien sûr, on dit ce sont des anti-allergiques, mais ils ont aussi une action anti-inflammatoire, et votre muqueuse, en fait, est agressée par ces produits chimiques, et le fait de prendre un antihistaminique diminue l'inflammation. Donc, il a tout à fait raison. Ce qu'il faut, c'est éviter de le plus possible les zones qui sont riches en polluants chimiques et donc de ventiler, de bien aérer. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez un accès Internet, je vous conseille d'aller sur le site de l'association Asthme et Allergie où vous aurez plein d'explications, plein de conseils pour réduire ce risque-là.
Fatoumata, dans l'endroit où vous vivez à Conakry, vous êtes entouré d'une zone où il y a beaucoup de poussière, justement, vous êtes au contact de beaucoup d'éléments comme ça qui provoquent chez vous des réactions?
Oui.
Donc vous ne pouvez pas vraiment les éviter au quotidien?
Pas du tout.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire à Fatoumata? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne des antihistaminiques au long cours?
Alors,
ou pas?
Il n'y a pas de danger à prendre des antihistaminiques au long cours. Il n'y a pas de danger. Simplement, l'antihistaminique ne fait que soulager le symptôme, ne va pas guérir. Donc, ce qu'il faudrait essayer, c'est d'aérer au maximum votre habitat.
Mais si elle est dans un environnement qui est très poussiéreux,
oui,
par exemple, elle
n'a
pas le choix, c'est difficile.
Il y a des moments où les pics de pollution sont différents, tout de même, d'intensité. Souvent, on fait au mieux aérer la nuit. Parce que vous êtes à côté d'une usine, vous êtes à côté d'une route à forte circulation, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement?
Non, je ne suis pas à côté d'une usine.
Bon, alors donc.
Mais voilà, y a la poussière partout, il y a les fumées partout, on brûle les ordures partout.
Ah, ça c'est très
mauvais. C'est le quotidien.
C'est le quotidien, donc peut-être qu'il faut lui conseiller, c'est pour se soulager, c'est de prendre cette antihistaminique au long cours.
Oui.
Voilà, puisque vous ne pouvez pas changer cet environnement, il faut s'y adapter, hélas. Et pour vous soulager, le mieux, c'est peut-être de prendre ce médicament au long cours pour vous soulager, pour pas avoir trop de réactions. Vous souhaite une bonne journée à Conakry, Fatoumata. On va partir pour le Congo-Brazzaville, pour Brazza, où c'est Enacha qui est en ligne. Bonjour Enacha.
Bonjour.
On est à votre écoute, allez-y. Le professeur, le docteur Patrick Ruffin vous écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour madame.
En fait, ma question, je suis... allergique depuis toute petite. J'ai souffert de la rhinite allergique depuis actuellement ma naissance. Et vers les 12 ans, 13 ans, je faisais même des crises d'asthme, juste au contact de la poussière et du froid. En tout cas, je réagissais très mal. J'avais des crises d'asthme à répétition. Mais de nos jours, je suis constamment sous antihistaminique allergique parce que rien qu'au contact de la poussière, le mal revient, j'ai du mal à respirer, il y a la grippe qui survient à tout moment. Je suis constamment en train de tousser, la toux sèche. Donc, le rhume de foin c'est tous les jours, je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir constamment ce rhume et s'il y a un traitement concret contre les allergies.
Docteur Patrick Ruffin.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est bien préciser le ou les facteurs qui déclenchent vos symptômes. Vous me dites que vous êtes très allergique à la poussière, donc faut vérifier quel acarien vous êtes allergique. Il faudrait, si c'était possible, consulter un allergologue dans votre ville, s'il y en a un. Donc, ça serait la meilleure solution, qui pourrait vous faire des tests qui confirmerait votre allergie aux acariens, et à ce moment-là, ça peut, on peut traiter, on fait ce qu'on appelle une désensibilisation. Maintenant, la plupart du temps, ce sont des désensibilisations par voie sublinguale. Donc, ça peut faire disparaître votre allergie.
Qui sont parfois très compliqués à obtenir dans certaines régions du monde, en particulier, je ne sais pas si c'est accessible à Brazzaville. Moi, j'avais une autre question, Inacha. Quand vous dites allergique à la poussière, il s'agit des poussières intérieures de la maison ou des poussières extérieures, des environnements sablonneux dans la ville ou sur les routes ou sur les pistes?
Intérieur comme extérieur.
Les deux, intérieur comme extérieur.
Pour l'intérieur, ce que vous pouvez, ça serait acheter des housses anti-acariens. Parce que le plus important, en fait, dans l'intérieur, c'est de mettre une housse anti-acarien autour du matelas et autour de votre oreiller. Évitez d'avoir dans votre chambre trop de tapis ou de tissus, de rideaux. Si vous avez un carrelage, c'est parfait. Donc déjà, ça va vous permettre de réduire la concentration en acarien. Et donc, comme je vous le disais, si, éventuellement, on peut vous désensibiliser.
Voilà Inacha, bonne journée à vous à Brazzaville. On va retourner à Conakry, on retourne en Guinée pour joindre Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
On est à votre écoute, le professeur Suzanne Yang aussi est à votre écoute, allez-y.
Bon, en fait moi je suis allergique à certains médicaments tels que l'ampicilline, le pénicilline, le griffage, le cofentrine. Puisque à chaque fois que je prends ces médicaments-là, j'ai constaté qu'il y a des boutons qui apparaissent sur mon corps. Et quand je reviens vers le médecin, il me prescrit le Dexa. Et surtout, quand les boutons-là apparaissent, il y a une forte démangeaison qui suit. Maintenant, quand on me prescrit encore le Dexa, je pense à la démangeaison ne s'atténue pas immédiatement. Et je vais rester dans ça à peu près 2 jours, 3 jours.
Abdoulaye, j'ai une question complémentaire. Vous dites je suis allergique à plusieurs médicaments. Ces médicaments, vous les avez achetés à la pharmacie ou vous les avez acquis à l'hôpital? Comment ça s'est passé?
Bon, en fait, quand si je prends par exemple le cofentrine, en 2014, j'étais tombé malade du palis. Je suis allé au CHI d'Onca.
Oui.
Il y a un qui m'avait consulté, il m'avait prescrit ce médicament. Je suis revenu, j'ai acheté ça à la pharmacie.
À la pharmacie,
et
d'accord.
Dès que j'ai acheté ça, j'ai pris 2 comprimés seulement. Un seul comprimé, pardon. Des boutons sont apparus. Maintenant, si je prends l'aminophiline aussi, parce que je suis asthmatique.
Oui.
Quand je prends l'aminophiline mélangée à l'ampicilline, il y a aussi des boutons qui apparaissent sur tout le corps.
Professeur Suzanne Yang, tout à l'heure justement quand on a échangé, vous aviez cité des allergies à certains médicaments. Abdoulaye ici nous décrit quand il est malade, il prend des traitements, il prend des cachets, il a des plaques ou des boutons qui apparaissent. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors ce que je peux lui dire, c'est que en fait, il est victime d'une sensibilisation, c'est-à-dire qu'il fait des réactions à plusieurs médicaments. Alors, cette réaction, ça peut être de vraies allergies. En général, c'est rare quand même d'être allergique à tout un groupe de médicaments. Mais ça peut être ce qu'on appelle des pseudo-allergies, c'est-à-dire sur un terrain atopique. Je suppose qu'il est atopique puisqu'il est déjà asthmatique. Donc, les sujets atopiques ont une plus grande sensibilité aux effets pharmacologiques des médicaments, et donc ils peuvent réagir donc, comme en pseudo-allergie à plusieurs médicaments.
Et donc, ce qui peut permettre de différencier une vraie allergie d'une pseudo-allergie chez ces malades, c'est de pouvoir faire des tests médicamenteux que nous pratiquons de plus en plus à Dakar pour permettre de savoir si c'est une vraie allergie ou tout simplement c'est l'effet pharmacologique des médicaments auxquels il est sensible du fait de son terrain atopique. Alors, l'atopie, c'est tout simplement une prédisposition à faire des sensibilisations à l'environnement et aussi aux médicaments. Et c'est justement ce problème que nous avons à Dakar, où nous avons une forte prévalence de l'atopie. Et avec la polymédication et les utilisations intempestives des traitements, que ce soit moderne ou traditionnel, les gens font beaucoup de réactions.
C'est quoi, quand on dit atopique, dermite ou dermatite atopique, c'est de l'eczéma, c'est ça?
Ça peut être de l'eczéma ou des équivalents. Il y a des signes qui ne sont pas de l'eczéma et qui s'intègrent parfaitement dans le terrain de dermatite atopique. Par exemple, avant, quand on se grattait ou quand on avait un prurigo, on pensait à la dalle. Et maintenant, on se rend compte qu'à Dakar, la première cause de prurigo, c'est effectivement les manifestations allergiques. Donc, nous avons ce qu'on appelle les équivalents de dermatite atopique, ou les signes mineurs de dermatite atopique qui ne sont pas de l'eczéma et qui peuvent se manifester sous plusieurs formes.
Abdoulaye, est-ce que vous êtes renseigné au niveau de Conakry pour savoir s'il y avait un dermatologue? Est-ce qu'on vous a justement conseillé d'aller dans un service spécialisé en dermatologie et en allergologie surtout?
Bon, en fait, en 2014, quand il y a les boutons là sont apparus sur mon corps, j'avais consulté un dermatologue qui m'avait prescrit des médicaments. Et suite à cela, j'avais eu la solution. Mais depuis lors, quand les boutons apparaissent, on me prescrit toujours le Dexa. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'est pas la solution. Je peux rester 3 jours, 4 jours avant que les boutons-là ne disparaissent et que la démangeaison ne cesse.
Professeur Suzanne Yang, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure à Abdoulaye, justement, si on lui donne un traitement pour bloquer la réaction et qu'il a quand même cette réaction?
Alors, c'est peut-être que le traitement n'est pas adapté au type de réaction qu'il a fait. Je pense que ça mérite une consultation d'allergologie. Peut-être qu'en Guinée, il y en a deux ou trois. Ça m'étonnerait qu'il y ait un service d'allergologie proprement parlé. C'est une spécialité qui est encore assez pauvre en Afrique. Il y a très peu d'unités d'allergologie. Et donc, c'est difficile.
L'accès est très compliqué.
L'accès est très compliqué, mais je pense que tous les dermatologues peuvent prendre en charge les allergies médicamenteuses. Hein. Et les tests peuvent être faits méthode maison, je veux dire, avec les médicaments que lui-même il absorbe. Un dermatologue doit pouvoir lui appliquer des patchs ou des prises sur la peau pour voir déjà. S'il y a une positivité, c'est déjà quelque chose. En attendant que des tests de provocation orale puissent être administrés en milieu hospitalier. Mais je pense que de toute façon, la gestion de l'allergie, c'est la prévention. Dès l'instant qu'on prend des médicaments et qu'on a une réaction, ce qui est préférable, c'est d'éviter la classe thérapeutique impliquée. Je pense que le véritable traitement de la maladie allergique, c'est la prévention.
Même si dans son cas, c'est compliqué, compte tenu justement de toute cette liste de médicaments auxquels il nous a dit être allergique. En tout cas, bon courage Abdoulaye, très bonne journée à Conakry. On retourne au Congo-Brazzaville, mais cette fois à Pointe-Noire, où c'est Ricia. Ricia est en ligne avec nous. Bonjour Ricia.
Bonjour.
On est à votre
Bonjour
écoute.
À tous.
Allez-y.
Voilà. Depuis que je suis toute petite, j'ai jamais souffert de réactions allergiques. Mais il y a une année de cela déjà, j'ai eu une éruption cutanée sur l'avant-bras sous forme de bouton et ça s'est répandu sur tout le corps après quelques jours. J'ai consulté un dermatologue et après, je suis venue en traitement. Et 3 mois plus tard, j'ai encore une éruption et cette fois-ci, c'était sous forme de piqûres d'insectes. Ça enflait sur l'avant-bras toujours et quelquefois sur le corps, mais c'était pas partout. Voilà, ça fait déjà 6 mois que j'en souffre et la durée, c'est une journée ou deux et ça disparaît et ça réapparaît ailleurs, surtout sur le bras. J'ai 2 questions. Est-ce que c'est toujours dû à la chaleur? Parce que ma première allergie, c'était dû à la chaleur, ce que le dermatologue m'a dit. Est-ce que c'est toujours dû à la chaleur et est-ce que c'est chronique ou il y a un traitement?
Alors, question de Ricia. Pour vous, professeur Suzanne Yang, donc des éruptions cutanées, elle dit que ça ressemble à des piqûres d'insectes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Ricia?
Alors, je pense effectivement qu'elle souffre d'une dermatite atopique. Et la particularité de la dermatite atopique, justement, c'est ce caractère récidivant à vouloir s'étendre sur d'autres parties du corps. Et c'est comme ça le gène évolutif de cette pathologie, dont une évolution un peu imprévisible. Donc toute l'importance de l'éducation thérapeutique qui est d'éduquer le patient, de lui apprendre à gérer sa pathologie, hein, de l'éduquer à appliquer elle-même ses propres traitements, à comprendre les facteurs qui le déclenchent. Et en l'occurrence ici, je pense que la chaleur est un facteur déclenchant de sa crise de dermatite atopique. Et aussi de pouvoir donner des conseils tels qu'une hydratation permanente, d'éviter les agressions thérapeutiques, les piqûres de moustiques, puisque les sujets atopiques, comme on l'a dit, sont très sensibles parfois aux piqûres d'insectes. Ils font donc des éruptions cutanées. S'il y a une moustique qui pique, ça peut faire une éruption même généralisée sur tout un membre. Donc, ils ont une hypersensibilité aux piqûres de moustiques. Donc, tout ce problème de l'allergie chez nous, c'est le terrain atopique, qui fait que le sujet atopique, il est sensible aux infections, il est sensible aux effets toxiques des médicaments, il est sensible au climat, à l'environnement. Hein, et c'est vraiment pourquoi ces pathologies posent problème, parce que finalement, c'est la gestion de l'environnement et la gestion du mode de vie, et ça se résume au mot éducation thérapeutique. Et éducation thérapeutique, c'est pas évident. Déjà, s'il y a très peu de dermatos dans nos contrées, pas dans les régions, pas assez dans les régions. Et donc, comment faire une éducation thérapeutique adaptée s'il n'y a pas d'allergologue, s'il n'y a pas assez de dermatos? Et c'est pourquoi ces affections sont très sévères chez nous.
Et on comprend bien, oui, que c'est extrêmement compliqué à prendre en charge. Ricia, on vous souhaite une bonne journée à Pointe-Noire. Nous retournons en Guinée-Conakry, beaucoup d'auditeurs en ligne hein, et beaucoup d'auditrices avec Mouminatou qui est avec nous. Mouminatou, bonjour.
Bonjour docteur, bonjour à tous.
On est à l'écoute, allez-y.
Ok, j'ai été diagnostiquée d'une rhinite allergique et de l'eczéma localisé seulement au niveau des plantes des pieds, surtout symétrique, depuis plus de 4 ans. J'utilise les corticoïdes locaux, ça ne marche toujours pas. Le médecin m'avait conseillé de changer de chaussure sans me dire pourquoi et quel genre de chaussures devrais-je porter. Maintenant, je voudrais savoir si les chaussures contiennent des produits allergènes qui empêchent l'eczéma de guérir.
Mouminatou, je me tourne vers Patrick Ruffin, pour cette question sur les allergènes. Il y a des produits comme ça? Il y a des matériaux qui peuvent provoquer des allergies?
Oui, tout à fait. En particulier, si vous avez des chaussures, alors, il y a des chaussures, soit ce sont les cols. Par exemple, si vous avez des chaussures style chaussures de sport, si par contre vous avez des chaussures en cuir comme des sandales, les produits qui sont utilisés pour tanner le cuir, en particulier le chrome, peuvent donner des allergies de contact. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est par exemple de porter pendant quelques semaines des chaussettes de manière à ce que le contact ne se fasse pas, et vous verrez si vos lésions cutanées disparaissent. Parce que le problème, c'est que vous avez sûrement peut-être plusieurs chaussures et qu'il faut déterminer quelle chaussure ensuite
provoque
la réaction.
Alors peut-être que c'est un peu compliqué hein, quand on est à Conakry de porter des chaussettes.
Oui, mais enfin des chaussettes fines.
Parce que ça fait chaud aux pieds. Alors des chaussettes fines, plutôt en coton, on imagine.
Oui, oui hein, et pas de couleur.
Voilà, des petites soquettes blanches, tout simplement, qui peuvent être très jolies avec des petites baskets. Je ne sais pas ce que vous portez. Mouminatou, c'est quoi plutôt votre style?
Bon, ça varie. Des fois, je porte des tapettes, je porte des baskets.
Donc, avec des baskets, vous pouvez tout à fait mettre des petites soquettes blanches en coton. Et puis, comme ça, vous verrez si au bout de quelques jours, ça disparaît, si ça s'atténue.
Au moins 15 jours.
Au moins 15 jours pour voir si, justement, cette réaction s'atténue. Et peut-être que vous pourrez trouver un début de solution à vos problèmes en éliminant au fur et à mesure le matériau qui peut, effectivement, chez vous, provoquer cette allergie.
Voilà. Ça sera plus simple que de faire des patch tests. Ce serait bien sûr l'idéal de faire des patch tests au col et au chrome, etc. Mais au colorant parfois aussi, si la chaussure est colorée. Mais déjà, cette technique de la chaussette blanche, c'est à mon avis le plus simple.
Voilà une réponse très concrète, Mouminatou, à votre question. Bonne journée à Conakry. On repart à Pointe-Noire, Congo-Brazza, où Poumone est en ligne. Bonjour Poumone.
Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Docteur Ruffin, à votre écoute, allez-y.
Bon, moi j'ai mon fils aîné qui a 10 ans. À l'âge de 4 mois, il avait fait une crise. Et donc on l'avait emmené chez le pédiatre, on avait fait sortir les crachats à travers un appareil. Mais non, après quand il a eu ses 4 ans, On m'a demandé de faire les examens. On a prélevé le sang. On a dit qu'il était allergique. Bon, je sais pas l'allergie, c'est à quoi, je maîtrise rien. Et aujourd'hui, il a 10 ans. Quand il fait les crises, on me prescrit souvent le Betiacin ou encore le Ventoline. Mm-hmm. Et le tout dernier qui a 4 ans, il fait aussi ces mêmes réactions respiratoires. Dernièrement, nous étions hospitalisés, on l'avait injecté le Célestin. Donc moi, je me dis, je suis un peu confuse. Est-ce qu'ils sont asthmatiques ou ils ont des allergies? Donc je suis un peu dans l'embrouillement, je ne maîtrise pas réellement l'état des enfants.
Docteur Patrick Ruffin.
Oui, alors tout à fait, c'est ce que vous me dites là, et c'est très intéressant. D'abord, il faut savoir, c'est que l'asthme chez l'enfant, on retrouve dans l'asthme de l'enfant, dans 80% au moins des cas, un facteur allergique. Le problème, c'est que vous me dites qu'ils sont très souvent encombrés, vos enfants, qu'il y avait des crachats. Et ça, c'est très fréquent ou pas?
Mais oui, bon, c'est un peu grave parce que ça commence par un tout.
Oui.
24 heures après, c'est la réaction de respiration qui change.
Oui. Alors, pour faire le diagnostic d'asthme, la meilleure solution serait de leur faire une exploration respiratoire chez un pneumologue ou éventuellement un allergologue s'il y en a à Pointe-Noire pour vraiment savoir s'il s'agit d'un asthme. Parce que il y aurait d'autres possibilités. Est-ce qu'on leur a fait une radiographie de thorax ou pas, des radiographies pulmonaires?
Est-ce qu'on a fait une radio des poumons? Oui.
Des radios de, on fait souvent des radios de temps
oui,
en temps.
Elles sont
juste
normales.
Pour regarder s'il y a des tâches. Oui.
Elles sont normales.
C'est normal. Oui.
Alors, ça se peut que ça soit effectivement simplement un asthme avec une forme un peu hyper sécrétante. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'ils aient un traitement de fond, si c'est régulier, avec des corticoïdes inhalés. Et éventuellement des bronchodilatateurs, en tout cas, oui, pour même les deux.
Bronchodilatateurs, c'est ce dont parlait justement Poumon, comme la Ventoline.
Mais il y a maintenant des médicaments qui associent un corticoïde inhalé et un bronchodilatateur de longue durée d'action, ce qui permet de le prendre deux fois par 24 heures, et ça protège pendant toute la journée.
Et ça permet de mieux respirer.
De mieux respirer. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il soit vu par quelqu'un sur place pour bien confirmer qu'il s'agit d'un asthme. Parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner des symptômes un peu équivalents. Dans votre famille, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes respiratoires?
Ben, mon grand-père avait ça et mon petit frère aussi.
Oui.
Mon petit frère est asthmatique.
Et c'est vraiment un asthme, on est sûr que c'est un asthme.
C'est ce que les médecins ont dit quand nous étions tout petits. Hein.
Voilà. Bon, je crois que vraiment, il faudrait voir un spécialiste sur place.
Vous savez s'il y a dans la zone un pneumologue, un pédiatre qui serait spécialisé pour justement pouvoir diagnostiquer cette question?
Non, moi je vais souvent juste voir un pédiatre, mais un pneumologue, pédiatre, non.
Ou un pédiatre peut-être sur Brazzaville, peut-être qu'un pneumologue spécialisé dans un service hospitalier serait disponible. Oui, vous voulez
Oui, je rajoutais quelque chose. Pour votre fils qui a 10 ans, il y a un moyen relativement simple pour diagnostiquer l'asthme. Ça serait, lorsqu'il est gêné, un jour où il tousse ou il est gêné, mesurer son débit expiratoire de pointe, ce qu'on appelle le peak flow. Et ça, le pédiatre, il en a sûrement un. C'est un petit appareil tout simple qui on souffle le plus fort possible dedans et on a une valeur. Et ensuite, on lui donne 4 bouffées de Ventoline et un quart d'heure après, on refait la même mesure. Et si la mesure est nettement améliorée, ça confirme le diagnostic d'asthme.
Et dans ce cas-là, un pédiatre peut suffire pour faire ce diagnostic. Et ça, c'est important pour vous,
voilà.
Parce que ça vous donne une réponse concrète, Poumon. On vous souhaite une bonne journée à Pointe-Noire. Nous poursuivons cet échange et on retrouve le professeur Suzanne Niang, qui est toujours en ligne avec nous de Dakar. Professeur Niang, de quel traitement disposez-vous pour soulager les allergies cutanées? Tout à l'heure, le docteur Ruffin a suggéré à une auditrice la désensibilisation sublinguale. naturelle, hein, ces petites gouttes qu'on met sous la langue comme ça pour au fil des jours, au fil des mois être de moins en moins sensible à certains allergènes. Est-ce que ça existe en Afrique de l'Ouest?
Oui, en effet, la désensibilisation est pratiquée par les allergologues, pneumologues ou pédiatres de Dakar qui exercent surtout, mais ils exercent plutôt en privé. Et donc, pour ce qui est allergie respiratoire, la désensibilisation est le seul traitement, je dirais, curatif. Mais malheureusement, pour la peau, ce n'est pas le cas. Mm-hmm. La désensibilisation ne marche pas trop sur la peau, puisque pour désensibiliser, il faut trouver une sensibilisation à une substance bien précise. Et pour la peau, c'est plus difficile, puisque la peau est exposée à tout l'environnement. Et donc, en tout cas, ça ne marche pas pour les examens. Même si quelqu'un qui fait une rhinite ou un asthme et qui est amélioré par la désensibilisation peut avoir en même temps sa dermatite atopique améliorée par le même biais. Mais la prise en charge directe d'une dermatite atopique par une désensibilisation, pour l'instant, n'est pas d'actualité.
Professeur Suzanne Yang, est-ce qu'il y a des mises en garde particulières que vous voulez adresser aux personnes qui ont des terrains allergiques? Bien sûr, à nos auditrices et à nos auditeurs, en particulier dans certaines pratiques pour se soigner, des choses que les gens ont un petit peu l'habitude de faire et en fait qui sont plutôt néfastes.
Alors, chez nous, c'est vraiment la médecine traditionnelle, et c'est dommage de le dire, mais c'est actuellement les plantes médicinales qui constituent le premier motif, la première cause d'allergie médicamenteuse dans notre structure hospitalière. Et chaque mois, deux cas au moins d'hospitalisation pour ces plantes. Parce qu'ils donnent des allergies sévères, des allergies généralisées, surtout que ces produits sont absorbés sur de longues durées, en grande quantité, en mélange complexe, dont l'identification ne peut se faire.
Alors justement, ces potions, difficile de connaître les ingrédients. Du coup, vous pouvez pas dire aux auditrices ou aux auditeurs, attention à tel ou tel produit, puisque le produit est déjà tout préparé.
Voilà, c'est ça. C'est tout simplement des mélanges secrets que les praticiens administrent aux patients. Mais par contre, pour ceux, dans 60% des cas, quand même, nous arrivons à connaître le nom de la plante. Et l'équipe de dermatologie du Dakar a eu quand même le mérite de consulter des bacilles de tests allergologiques avec ces plantes médicinales, des travaux pionniers qui nous permettent maintenant d'avoir une bacille plante traditionnelle et qui nous permet de tester directement les patients qui ont eu à prendre telle plante et de leur dire attention, telle plante vous êtes allergique puisque de toute façon les recherches ont montré que ces plantes contenaient des substances allergisantes connues de tous, des huiles essentielles, des substances parfumantes, des produits photosensibilisants. Et donc maintenant on arrive à convaincre les patients de leur allergie à des plantes et donc à éviter, à défaut de pouvoir leur interdire de facto la médecine traditionnelle qui est le premier recours, mais au moins ils sauront qu'ils sont allergiques à certaines plantes.
Et justement, si on voulait sensibiliser celles et ceux qui nous écoutent, il y a des produits comme ça qui vous viennent à l'esprit où on dit attention quand on a un terrain allergique, attention particulièrement à ces produits?
Alors, en tout cas, quand on est atopique, on a intérêt à ne pas utiliser ces plantes médicinales, puisque c'est les principes actifs, c'est de nombreuses substances, et comme je vous dis, ils sont déjà sensibles à l'effet pharmacologique. Si en plus on agite l'effet allergisant, je pense que les sujets atopiques, malheureusement, c'est les sujets qui s'adonnent le plus à cette médecine, puisqu'ils sont déroutés par le caractère récidivant, ils ont une altération de la qualité des vies, et donc, bonjour les médecines parallèles, mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que la moitié des sujets qui font des réactions à ces plantes sont des sujets atopiques. C'est des sujets qui sont sensibles. Et donc, le message, c'est si vous êtes atopique, si vous avez des allergies, ne prenez pas n'importe quelle chose. Il faut que les gens fassent attention aux produits, même médicamenteux qu'on leur prescrit. On voit que les médecins utilisent souvent l'exantiline, les pénicillines retard, pour traiter les dermatoses. Et souvent, c'est aussi à l'origine d'eczéma généralisé. Donc, le conseil, c'est arrêt de l'utilisation intempestive. Surtout que l'on mal adapté. C'est vraiment le grand message, le cri de cœur que nous, dermatologues, nous adressons à la population, puisqu'il y a une publicité à outrance de cette médecine traditionnelle dans les médias, hein, et on ne maîtrise pas la composition de ces substances. Hein. Certains sont connus, mais les mélanges complexes, on ne peut pas connaître leur. Et c'est la même chose dans les services de néphrologie, les services d'hématologie, où c'est les effets néfastes de ces plantes font des ravages.
Sur les reins. Sur les reins. Merci beaucoup. Le message est bien passé, professeur Suzanne Yang. Merci pour toutes ces réponses à nos auditeurs et auditrices. Je rappelle que vous êtes chef du service de dermatologie-vénérologie à l'hôpital Aristide Le Dantec, au Sénégal, à Dakar.
RFI à Dakar. 92 FM.
Docteur Patrick Ruffin, on arrive à la conclusion de notre échange. Quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont ces allergies qui peuvent conduire à une urgence médicale. Quand on parle de choc anaphylactique, de quoi s'agit-il exactement?
Tout à fait. Alors, le choc anaphylactique est souvent trois grandes causes. Une allergie alimentaire, une piqûre d'hybénoptère, c'est-à-dire d'un guêpe ou d'abeille, d'un frelon, etc. Et une allergie médicamenteuse. Ce sont ça les trois grands groupes d'allergies qui peuvent conduire au choc. Alors le choc, qu'est-ce que c'est ? C'est une réaction allergique de l'organisme qui se traduit par un malaise, qui peut se traduire par une perte de conscience, une éruption cutanée de type urticaire, une gêne respiratoire, des troubles digestifs. Et le seul médicament du choc, c'est l'auto-injecteur d'adrénaline. C'est l'adrénaline, cette substance que l'on injecte par voie intramusculaire. Soit on a sous forme d'ampoule, mais le mieux c'est de l'avoir sous forme d'auto-injecteur parce qu'il faut agir très rapidement et on se fait une injection dans la cuisse. Et ça permet de sauver la personne.
Alors des allergies, hein, ce sera ma dernière question, qui peuvent être assez mystérieuses puisque certaines se déclenchent alors qu'on a été de tout temps en contact avec l'allergène et puis même d'autres qui se déclenchent un certain temps après ce contact. Comment on l'explique ?
Alors, tout d'abord, effectivement, on peut devenir allergique à n'importe quel âge de la vie, avoir mangé des amandes pendant 70 ans et 70 ans plus un jour, on mange une amande et on déclenche une réaction urticarienne, un œdème de Quinck, etc. Alors, il y a également d'autres mécanismes, beaucoup plus rares, qui sont des mécanismes retardés. Et ça, c'est beaucoup plus difficile d'en faire le diagnostic. C'est en particulier avec des médicaments. On peut avoir des toxidermies, ce qu'on appelle les toxidermies, qui sont des réactions immunitaires qui se produisent au bout de plusieurs jours, voire parfois d'ailleurs au bout d'une dizaine de jours. Donc le diagnostic est très difficile à faire.
Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé à toutes nos questions. Docteur Patrick Ruffin, je rappelle que vous êtes pneumologue et allergologue à Paris.
Priorité Santé sur RFI.
Et nous faisons le point à présent sur une maladie rare, son nom, l'hypertension artérielle pulmonaire. Pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, professeur Olivier Sidbon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue au centre de référence HTAP, hein, l'acronyme de cette maladie, à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Alors, comment les patients arrivent jusqu'à votre service, professeur Sidbon, jusqu'à votre centre de référence? Comment vous sont-ils adressés?
Alors, bonjour à tous. Déjà, l'hypertension artérielle pulmonaire, qu'est-ce que c'est? L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie rare, hein, qui touche les petits vaisseaux pulmonaires, qui s'obstruent progressivement et qui vont entraîner un symptôme qui est tout à fait banal, mais qui est l'essoufflement. C'est les patients, généralement, ils consultent parce qu'ils sont essoufflés. Ils vont voir leur généraliste, qui va généralement les adresser à un pneumologue et ou à un cardiologue. Et puis c'est souvent l'échographie cardiaque qui va nous permettre de dépister cette maladie. Et les malades nous sont adressés après réalisation d'une échocardiographie, qui va donc évoquer ce diagnostic, et les malades nous sont adressés dans ces conditions, et nous faisons un bilan exhaustif pour essayer de comprendre quels en sont les mécanismes et au bout du compte, quel traitement on va devoir mettre en place chez ces patients.
Alors vous avez dit maladie rare, professeur Sidbon, combien de personnes sont concernées en France ?
Alors on considère à l'heure actuelle, nous avons un registre national qui nous permet donc de collecter les données de tous les malades en France dans le cadre d'un réseau de soins qui compte avec un centre de référence qui est le nôtre et 25 centres de compétences répartis sur le territoire. Quand on compte de façon la plus exhaustive possible le nombre de malades qui sont suivis dans ces différents centres, on a environ 5000 patients avec cette maladie.
Et du côté des traitements, professeur Olivier Sidbon, quelle est la prise en charge disponible aujourd'hui ?
Alors les traitements, on a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. On a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années, on avait un seul médicament, qui était un traitement qui était très efficace, mais un traitement qui s'administrait par voie intraveineuse, continue, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Ça nous a permis de faire des progrès considérables. Les malades se sont considérablement améliorés avec ce traitement. Et puis petit à petit ont été développés des médicaments utilisables par voie orale, des médicaments comme on l'entend en général, c'est-à-dire des comprimés. Et puis, on a appris à mieux les connaître, mieux les utiliser, et on fait maintenant de plus en plus de multithérapie, c'est-à-dire comme ce que l'on voit dans d'autres maladies chroniques, hein, donc c'est de l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, le cancer. Maintenant, on utilise rarement un seul médicament, on va utiliser plusieurs médicaments en même temps. Et ça nous a permis comme ça d'améliorer la situation de nos malades, d'améliorer les symptômes et surtout d'améliorer de façon très significative l'espérance de vie de ces patients.
Est-ce que l'on connaît les causes de cette maladie rare, professeur Sidbon ?
Alors les causes exactes, on les connaît pas bien. On sait qu'il y a des formes génétiques avec des mutations génétiques qui sont parfaitement bien connues et on connaît de plus en plus de gènes qui sont impliqués dans le développement de la maladie. Il y a aussi d'autres facteurs favorisants, en particulier la prise de certains médicaments. Ça a été le cas des anorexigènes, de tous les médicaments coupe-faim, la fenfluramine, dexfenfluramine, plus récemment le benfluorex, hein, le médiator qui a été bien connu en France. Et puis il y a un certain nombre d'autres maladies dont on sait qu'elles sont associées avec une fréquence plus importante avec le développement de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est par exemple certaines maladies générales comme la sclérodermie, qui est également une maladie rare. Ce sont également toutes les causes d'hypertension portale, au premier rang desquelles les cirrhoses, bien entendu, l'infection par le virus le VIH, également certaines cardiopathies congénitales, hein, les communications interauriculaires, les communications interventriculaires. Si on les laisse évoluer, si on les opère pas assez tôt dans l'enfance, certaines vont évoluer vers une hypertension artérielle pulmonaire.
Alors justement, ça sera ma dernière question. Maladie rare, vous l'avez dit. Souvent, pour ce type de pathologie, il y a la question du diagnostic et de l'errance diagnostique. Est-ce que c'est vrai aussi pour cette maladie ?
Alors c'est tout à fait vrai, hein, puisque jusqu'à ces dernières années, nous avions à peu près un délai de 2 ans entre les premiers symptômes, hein, dont je rappelle qu'ils sont extrêmement banals, hein, c'est-à-dire c'est un essoufflement isolé. Et c'est sûr que quand quelqu'un est essoufflé, on ne pense pas tout de suite à l'hypertension artérielle pulmonaire. Mais avec une démarche très très structurée, on doit finir par y arriver. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'on a éliminé les choses simples, on doit normalement, grâce à l'échocardiographie, arriver en tout cas à évoquer le diagnostic. Cette errance, donc, il semble ces dernières années qu'elle s'est peut-être un petit peu réduite, mais malheureusement, quand on fait le diagnostic de la maladie, on a toujours des formes sévères. C'est très rare à l'heure actuelle de dépister des formes peu sévères de la maladie, sauf quand on fait certains programmes de dépistage, comme on peut le faire dans la sclérodermie, où là, effectivement, on arrive à dépister des formes un peu moins sévères et on peut les traiter de façon un peu plus précoce.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, professeur Sidbon. Je rappelle que vous êtes pneumologue au centre de référence de l'hypertension artérielle pulmonaire de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout. Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui avec nous, Laurence Snow. Demain, nous parlerons des grandes infections en Afrique. Virus, maladies parasitaires, maladies émergentes. On attend vos messages sur la page Facebook de l'émission et au 33 1 84 22 75 75. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.